Un homme de terrain, un homme de conviction, un homme d'information. Cette semaine, on jase là avec Jules Simard. Donc, je suis présentement avec Jules Simard. Bonjour, Jules.
Salut, ça va?
Ça va bien?
Ça va toujours.
C'est le fun de se retrouver dans un autre contexte. Moi, je suis quelqu'un qui a appris à te connaître avec le temps, puis j'ai découvert plein de facettes de toi. Moi, je t'ai connu comme journaliste, puis à un moment donné, à force de discuter, j'ai réalisé que tu as une carrière fantastique, tu as fait beaucoup de choses. J'ai le goût qu'on revienne là-dessus ensemble.
OK.
Jules, t'es né où, toi?
Saint-Thomas-du-Dieu.
À Saint-Thomas. T'es un petit gars de Saint-Thomas.
Un petit gars de Saint-Thomas. En 1953, le 2 juin 1953. Juste faire un petit rappel, le 2 juin 1953, c'est le jour du couronnement de la reine Élisabeth II. Or, nous avions, nous, tous les enfants du Commonwealth, reçu une petite cuillère à l'effigie de la reine, petite cuillère en argent, que j'ai dû perdre à peu près vers l'âge de 5 ans en jouant dans le sable dehors avec. Mais je me fais toujours un plaisir quand tout le monde te demande ta date de naissance. Oui, le 2 juin 1953, le jour du couronnement de la reine Élisabeth II.
Ah, ouais, c'est intéressant.
Est-ce que c'est pour ça que je ne suis pas fédéraliste ou british? Peut-être, mais c'est pas grave. Je suis né donc le 2 juin 1953.
De quoi? Il était comment le petit Jules, enfant? C'est quoi ton rapport avec ta famille? Comment ça se passait chez vous?
En fait, moi, je suis l'aîné.
T'as combien de frères et sœurs?
J'ai une sœur, trois frères.
OK, plus jeune.
Donc, on est cinq, oui. Dont un, mon frère Luc, qui est à peu près le même âge que moi. Là, il veut dire, on a un peu plus de 9 mois de différence.
C'était l'époque.
On a un 3 mois de différence. Et après, il y a eu ma sœur, qui est la troisième, et les deux autres, dont un au début des années 60, et un autre qui est né, lui, à Chapin, parce que nous avons fait un stage en Abitibi pendant plusieurs années, mais on a dû être de... J'avais 10 ans là, quand on est arrivé à Chougamau. Et quand je suis parti, c'était en 1967, donc à 14 ans que...
Je n'étais pas encore né.
Non, tu vois, hein? Le vieillir, ça, c'est particulier, c'est que ça nous permet d'avoir des souvenirs d'antan.
Oui, non, mais c'est intéressant. Fait que tous tes rapports avec tes frères et tes sœurs, ça s'est toujours bien passé?
Oui, on est quand même une famille très unie. Okay. Mon père est décédé en 1970, mais ma mère vit toujours.
Okay.
Se retrouver, c'est encore partie malgré la COVID, ça nous fait toujours le plaisir de se revoir. De souvenances à Saint-Thomas-du-Dieu. Un de mes premiers souvenirs d'enfance, c'est une journée du vote où mon père était travailleur d'élection à Saint-Thomas-du-Dieu. Je me souviens même pas pour quel parti. Je sais qu'il fut un des premiers aériennes, mais c'est avant ça, parce qu'à 5 ans, c'est en 1958, donc c'est okay. Avant
la création.
Et je me souviens, c'est mon premier souvenir, parce que ma mère avait dû aller porter, naturellement, un repas, un lunch à mon père qui était dans l'épaule à ce moment-là. Et ça m'avait toujours impressionné. Et de voir qu'on avait une activité comme ça, et puis que mon père y participait. Puis mon père était très actif, d'ailleurs, au niveau non pas de l'organisation politique en tant que telle, mais lors de la campagne électorale, il était présent.
Il ne laissait pas sa place.
Il ne laissait pas sa place. Il avait son opinion bien franche. Même si mon père était analphabète parce qu'il avait une cinquième année.
Okay.
Okay? Dans le temps, lui-ci, il était l'aîné de la famille et... plus rapidement que tu allais travailler dans le bois, tu allais travailler dans le bois. Donc, à partir de là, d'ailleurs, dès l'âge de 12-13 ans, je me suis ramassé tous mes étés. On se ramassait à être bûcheron avec mon père. Ouais. On était dans le bois, on travaillait dans le bois. Ce n'était pas de l'exploitation d'enfants, mais on permettait donc...
Il fallait travailler à cette époque-là.
Exactement. Donc, on était d'ailleurs à Chapin. Et tous les étés de mon adolescence, on travaillait, on était dans le bois.
Un homme des bois.
On était dans le bois, on travaillait comme bouchon.
Puis là, toi, comment il était le Jules à l'école comme enfant? Tu sais, ton rapport avec l'école, les amis, ça avait l'air de quoi à l'époque, toi?
Au niveau de... je réussissais bien.
OK. J'avais de la facilité.
Oui, j'étais parmi, effectivement, les premiers au niveau de l'école. On avait un bon groupe d'amis, que ce soit à Saint-Thomas-du-Dîme, que ce soit à Chapin, à Chibougamau. J'avais un groupe d'amis assez rapproché avec lesquels on s'entendait. J'avoue, un peu le leader. OK, j'ai toujours été un petit peu...
Tu es organisateur.
Un peu le leader du groupe. Donc, quand c'était le temps de faire les jeux, ces choses-là, j'avais souvent, toutefois, disons, la
bonne
chance
idée.
De décider. Et donc, j'étais, je pense, apprécié de la part de tous les copains.
T'as-tu gardé des amis de cette époque-là?
De mon enfance proprement dite, j'ai des connaissances, mais des amis proches que je côtoie encore, non. On est pas trop éloignés.
Ouais.
Parce que moi, je suis arrivé ici à Dolbeau en 1970, donc j'avais 71, en fait, 70, 71. J'avais 17 ans quand on est arrivé ici.
Fait que t'as refait
J'étais obligé quand même de les refaire assez rapidement parce que quand j'ai eu 10 ans, on a déménagé à Chapin-Chibougamau. À Chibougamau, j'ai dû rester à peu près 6 mois. Après, on a déménagé à Chapin. Et à Chapin, jusqu'en 1900... Pourquoi je me souviens de la date? C'était l'année de l'Expo 1967. Et on a déménagé cette année-là. Donc, j'ai manqué tous les voyages scolaires pour aller à Montréal, pour aller voir, pas le zoo, mais l'Exposition universelle de Montréal.
À cette époque-là... Te souviens-tu de qu'est-ce que tu rêvais de faire dans la vie? C'était quoi ton plan d'avenir là, quand tu avais, justement, 16-17 ans?
Travailler comme avocat, okay. Ça m'intéressait. Je dois dire que assez rapidement, l'idée de travailler dans le monde politique m'est venue. Est-ce que c'est mon premier souvenir d'enfant qui m'a amené à ça ou quoi que ce soit? Mais j'ai toujours aimé vouloir travailler dans ce sens-là. Des professions comme médecin, ça ne m'intéressait pas. C'était trop d'ouvrage.
Dans le domaine public,
oui, j'ai toujours eu ça. Et je me souviens, c'est quand j'ai commencé à l'université, en sciences politiques.
T'es allé où à l'université?
À Laval.
À Laval, fait encore un déménagement.
Oui, oui. On avait calculé ça. Quand j'ai eu 40 ans, semblerait-il que j'ai dû déménager environ une trentaine de fois.
Si, bon. Okay.
Une trentaine de fois là, qui se calculaient là, comme de quoi j'avais dû déménager soit dans une autre municipalité, soit même à l'intérieur de la même municipalité ou des choses comme ça. Mais donc... je me souviens, il y avait une de mes tantes qui m'avait demandé « Pourquoi tu t'en vas en sciences politiques pour être journaliste? Hein, »« Mais à cause, tu ne prends pas le cours de journaliste. » Non. J'ai dit « Il faut pas pouvoir parler des choses. Il faut les connaître. » Donc, il faut les comprendre et il faut les connaître. Ouais. Et comme dans ce temps-là, naturellement, au niveau de la politique, c'était le trois-quarts de l'information qui était véhiculée par les médias. Donc, c'est un peu pour ça. C'est à partir de ce moment-là, effectivement, fin du secondaire, parce que en secondaire, à la fin du secondaire, parce que j'ai déjà demeuré donc à Saint-Félicien, et à Saint-Félicien, au niveau du secondaire, j'aimais beaucoup m'impliquer auprès des associations étudiantes, des regroupements étudiants, et j'ai été un des directeurs de l'école, du journal étudiant qui avait à ce moment-là.
C'est là que tu as eu la piqûre pour le
journal. Fort probablement que oui. Quoique j'ai eu beaucoup de critiques aussi. Parce que j'étais, en plus d'être journaliste, j'étais éditorialiste. Ben oui. Et j'avais fait un éditorial. Parce que je m'étais présenté l'année d'avant, je m'étais présenté à la présidence de l'association étudiante quand je devais avoir à peu près 16 ans, 15-16 ans. Et je m'étais présenté à la présidente de l'association contre un étudiant de secondaire 5 qui, lui, avait 21 ans. Et je me suis fait battre. D'ailleurs, nous avons été parmi les deux premiers politiciens à faire un débat public. Ah oui, oui, on avait fait tout qu'un débat. J'ai encore le discours qu'il avait prononcé à ce moment-là. Il y avait un professeur qui m'avait aidé, Réal, qui n'est malheureusement plus de ce monde, il est décédé, mais il m'avait aidé à faire mon discours. Et je te faisais des citations du site de Corneille. Et... c'était sublime.
Oh, wow.
Mais quand j'avais fait ça, donc l'année d'après, j'ai perdu mes élections, et l'année d'après, je deviens rédacteur en chef avec d'autres journalistes. D'ailleurs, il y a une journaliste que j'avais dans ce temps-là qui était enseignante au cégep de Saint-Félicien, Fabiola Dallaire, que tu as dû connaître.
Ben oui, elle m'a enseigné.
Elle faisait la même école que moi, elle était de la même. Alors, j'avais fait un éditorial à un moment donné où je me disais, il serait important que tous les étudiants de l'école puissent participer aux activités qui sont organisées par l'association étudiante et à faire des travaux qui pouvaient être faits. Or, il y avait tout le professionnel qui était là et je me disais, pourquoi... Puis dans le professionnel, il y avait des gens qui faisaient, non pas du bricolage, mais de la charpenterie, ouais. Qui étudiaient à ce niveau-là. Et je me disais, pourquoi est-ce que c'est qu'on ne va pas chercher de ces étudiants-là pour faire des travaux à l'intérieur de l'école? Tu sais, il veut dire, c'était...
Ils sont là.
Et j'avais intitulé mon éditorial, « Les gens du professionnel sont-ils des caves? » Hey, tabarouette, je me suis fait ramasser. Ça a été ma première fois où je me suis fait ramasser par toute l'école. Et donc, au moins, j'étais élu.
Ouais. Mais non, c'est ça.
Je m'étais fait... ramasser la récréation, là, tout un groupe d'étudiants autour de moi, assez agressif, merci, et qui disaient que pourquoi est-ce que c'est que t'es allé... traiter tout le monde. J'ai posé une question pour dire... Puis l'objet de mon éditorial était complètement différent. C'était... Valorisons-les, utilisons-les, tu sais, c'est pas des...
Déjà gens... mal cité à 17 ans.
Déjà. Mais... Et en tout cas, ça a été une expérience assez marquante, ça.
Ben oui.
J'ai été... D'ailleurs, j'ai perdu mon poste après parce que le directeur de l'école... m'a fait venir dans son bureau. Et là, il voulait avoir tous les textes qui étaient publiés avant que je les publie. Alors, j'avais dit, je suis correct, que j'ai dit, je m'en vais. Donc, je suis parti à ce moment. C'est un peu ça. Tu comprends fort probablement que c'est ça qui m'a amené à vouloir... C'était plus la polémique et le débat. Je pense que j'avais comme intérêt... L'intérêt d'informer, de devenir journaliste, ça, c'est devenu beaucoup plus tard, quand j'ai commencé à faire le travail. Là, j'ai senti que qu'est-ce que c'était que de vouloir informer des gens adéquatement puis de parler des gens qui te côtoient. C'est là que je...
Toi, après tes études, tu finis ton bac en sciences politiques à l'Université de Montréal?
En fait, comme tous les gens qui, en sciences politiques, au cours des années 70, qui étaient là, mon bac, il me manque... Très exactement, 6 crédits.
2 cours.
Pour avoir un bac. Ah. Mon bac. Et je me souviens de ça parce qu'on a déjà eu un candidat ici qui était du Bloc québécois et qui avait dit qu'il avait fait ses études en sciences politiques et qui n'a pas eu son diplôme, lui non plus. Puis je pense qu'il lui manquait quelques cours. Donc on était au moins 2 qui étaient dans cette situation-là. Mais donc, après mon cours, en sciences politiques, j'ai commencé tout de suite dans le domaine des communications avec la télévision locale.
T'as jamais eu le goût de retourner finir ton bac pour 2 cours?
J'ai...
Non, mais c'est une question de curiosité.
Le goût, oui. Le temps, non. Tu comprends? Je veux dire, j'ai, J'ai toujours. Des possibilités aujourd'hui avec les acquis.
Ben oui,
j'aurais pu le demander avec tout ce qu'il y en a. D'ailleurs, ça m'ennuie parce que j'ai voulu enseigner à un moment donné au cégep de Saint-Félicien comme professeur de Sciences Po. OK, je sortais d'une expérience comme attaché politique de surcroît et je n'ai pas eu le poste parce que je n'avais pas mon bac.
Ben non, c'est ça.
Il me manquait deux cours
pour les règles sont très claires au cégep pour ça.
Ouais.
Là, tu tombes dans les médias, tu arrives à la télé communautaire.
Oui. En fait, c'était, dans le temps, ça s'est appelé la télé locale, pour une seule et bonne raison.
Elle était située où dans ce temps-là?
On était au-dessus de la bâtisse de M. Perron, qui était le propriétaire du câble, là, sur la 7e avenue, qui aujourd'hui s'est maintenant rendu un garage de maison, mais c'était dans cet édifice-là, on était au deuxième étage. Et M. Perron, parce que dès 1970, j'ai embarqué dans la télévision communautaire, les premiers balbutiements qu'il y avait à ce moment-là.
T'es encore là aujourd'hui, c'est fantastique.
Ah oui, et je faisais une émission avec Marie-Paul Villeneuve, qui est la sœur de Bernard, mais qui est elle aussi journaliste à la Presse canadienne, je vois ce que ça nous a tout donné.
Oui.
Et Marie-Paul avait... on faisait une émission sur le régime socialiste en Union soviétique, où nous... comment ça marchait.
Alors, il n'y a jamais eu de régime
socialiste. Nous étions dans des discussions épouvantables. Je m'en souviens. On a dû faire deux ou trois émissions avec ça. Et par la suite, là, quand j'ai pris le cégep, j'ai continué quand même au niveau de la télévision locale, où on faisait des entrevues, où j'amenais le point peut-être plus sur l'organisation politique, entre autres les premiers balbutiements du PQ, puis toutes ces choses-là. Donc, j'ai toujours été un peu là-dessus.
Comment c'était à l'époque, le journaliste? Parce qu'aujourd'hui, on sait que c'est très centralisé. Là. Si, tu sais, nous, à Télé-Communautaire du Lac, je veux dire, on redonne la possibilité de l'information aux gens de la place, mais c'est difficile par rapport aux grosses stations. Mais c'était comment le constat à l'époque là, des réseaux de télévision?
Je te dirais que c'était la même chose.
C'est la même chose?
C'est-à-dire que moi, quand j'ai commencé, j'ai commencé chez Dolbeau TV à faire la télévision, on faisait de l'information, on couvrait tout localement, mais je ne parlais pas
des enjeux nationaux.
Ce qui se passait au niveau national, même au niveau régional, je n'en parlais pas. C'était vraiment à moi du local. Et c'était du local en canne. C'est-à-dire, j'allais filmer la séance du conseil, je la filmais intégralement et je la passais intégralement sans faire de montage, sans faire de... Alors, quand ma caméra avait débarqué, elle débarquait en ombre. Ça, j'avais pas de trouble avec ça. Mais j'étais seul.
Ben oui.
J'ai déjà fait, d'ailleurs, une entrevue avec Sol.
OK.
Qui est Marc Favreau.
Marc Favreau.
Et il avait trouvé ça bien drôle. On était dans le studio en haut chez Dolbeau TV et j'arrive et il faisait un spectacle dans le coin. Alors, je interroge Marc Favreau. Je peux partir la caméra sur la console, je me mets un plan, je vois ma... Là, il se marie. Hey! Il dit, c'est pas vrai, il dit, t'es tout seul, là. Il dit, t'as pas de caméraman? Il dit, non, il dit, ça roule, là. Il dit, commencé l'émission.
Wow!
J'avais trouvé ça, mais j'avais tellement trouvé le monsieur impressionnant, là. C'était vraiment quelqu'un de charmant.
Ben
en tout cas, mais juste te dire que, donc, comme j'étais tout seul, on faisait tout. De la conciergerie au caméraman et à l'animation, on faisait tout. Pendant ce temps-là, j'ai eu la possibilité de faire ce qu'on appelait une correspondance avec CKRS Radio. Donc, c'est là aussi
qui
que j'ai
commencé. Saguenay.
Qui était eux autres à Chicoutimi. Et là, il y avait cette volonté des médias dits régionaux de vouloir s'en venir aussi en région par des correspondants.
Mm-hmm.
OK? Il y avait d'ailleurs Le Quotidien, il y avait son correspondant qui était Laurent Tremblay, qui, Laurent, a été un des ce matin, tu me disais le père de l'information. Non, le père de l'information, c'est véritablement Laurent qui était faisait plusieurs années qui faisait la communication à ce niveau-là. Mais tout ça pour rappeler, faut pas faut que je fasse attention quand même. Tu vois, quand tu me donnes le crachoir, je parle trop.
Non, mais c'est ça l'idée.
Mais donc, pour en revenir au sujet sur lequel j'étais, quand on a commencé, donc, j'ai eu la possibilité à CKRS Radio de faire mes premiers topos, donc de me faire connaître aussi à ces...
Comme journaliste, là, j'ai plus fait... officiellement un journaliste
oui,
à ce moment-là.
Oui, là, je faisais davantage, plus du reporter et de la nouvelle. Je couvrais donc les conseils municipaux et c'était la même... Radio-Canada faisait la même affaire. C'était Michel Bouchard, d'ailleurs, qui était, lui, là, son correspondant pour, avec... Radio-Canada, Radio-Canada, CKRS Radio, il y avait CGMD. À un moment donné, je te mens pas là, de 1972 à 1973, jusqu'en 1976, j'ai été sur le payroll de tous les médias d'information de la région.
Ah ouais, t'étais un transfuge.
Oui, à un moment donné, j'étais correspondant pour un, correspondant pour l'autre. J'ai été à Radio-Canada quelques mois, j'ai été à CJMS dans le temps, qui était pareil là aussi. Je pense que je n'ai pas été à CJPM. C'est vrai, il n'y avait pas... CJPM était là, mais c'était M. Tremblay, le maître de poste ici à Dolbeau, qui était le journaliste de CJPM.
C'est bien drôle.
À ce moment. J'ai été, donc j'ai travaillé, oui, à CHRL, j'ai tout fait. Oui, j'étais le correspondant pour eux.
T'avais-tu le goût, toi, de trouver une niche dans un média particulier ou t'étais bien là-dedans, puis tu...
Ben, en fait, j'étais à la télévision locale où je gagnais le, comme salaire un mirobolant, ouais. 90 $ semaine, en 1974.
Hé, hey, là, je suis tanné. Je venais de naître, là.
Donc, c'est pour ça que ça me permettait là, d'avoir arrondi mes fins de mois en faisant de la correspondance pour d'autres médias. Et en 1976, je pense, oui, on est en 76, là, j'entre pour l'Étoile du Lac.
Puis là, tu étais là longtemps?
Non.
Non?
J'étais là jusqu'en... 78.
OK.
Je faisais à peu près 2 ans par média. Et je changeais. Bien, dans le temps, on courait après toi.
Ben oui, oui, c'est ça.
Ce qui est peut-être le cas encore aujourd'hui, ouais, là, mais ça. Dans le temps, c'est ce qui se passait. Donc, j'étais là jusqu'en 78. Parce que 78, je me suis ramassé au quotidien. Là, je faisais de la presse écrite. Et j'ai aimé faire de la presse écrite. Beaucoup plus que... Contrairement à ce qu'on peut penser de la presse vidéo ou de la presse à la radio aussi. Donc, ça, j'aimais beaucoup plus l'écrit. C'est parce que ça me permettait de pouvoir mettre plus de profondeur dans la nouvelle. Tu sais, de la présenter dans un contexte ou des choses comme ça. Ça me permettait.
D'amener plus de nuances.
Oui, et d'arriver. Et quand même. Puis en plus, ben, j'avais aussi des rôles éditoriaux. Parce qu'à un moment donné, il y a eu le journal Le Janois. Un peu avant l'Étoile du Lac où j'ai été le directeur. Ça a duré, je pense, 3 semaines, le journal. Mais j'étais tout seul là-dedans. Là. Donc, tu faisais là, tu écrivais tes textes, tu couvrais l'événement, tu les écrivais tout, tu faisais ta mise en paire. En fait,
tu faisais tout.
Tout.
Mais c'est une belle école parce que tu sais un peu tout faire puis tu comprends un peu le rôle de chacun.
Oui, c'est ça. Tu ne fais pas nécessairement toujours bien parce que je n'ai pas de coach. Il n'y a pas de coach là-dedans. Je suis en filet, l'envoyant en tambour.
On y va.
Let's go, tu le fais. Et comme tu ne l'avais jamais nécessairement toujours fait, tu regardais des fois le confrère, tu te dis, ah, regarde donc comment est-ce qu'il travaille. OK, mais là, ben, l'essayer de même, moi aussi. Et tout ça pour te dire, tout à l'heure, tu m'amenais sur. Puis je pense que c'est important. Je veux le souligner parce que ça me paraît important. Les commentaires, ça avait été perçu par les étudiants, puis tout ça par tes chums. En 1971, vous savez que nous avons fait un collège à Dolbeau-Mistassini, un cégep, dans la controverse, parce que le cégep avait été décidé qu'il s'en allait à Saint-Félicien. Or, nous nous sommes battus pour qu'il soit ici, à Dolbeau, parce que la place où il y avait le plus d'étudiants en provenance, c'était Dolbeau, dans le secteur d'ici. Mais, géographiquement, c'était ça. Alors, la seule raison. Et nous avons aidé. Et j'ai été le président des étudiants. Nous étions 50 étudiants qui étaient dans ce cégep-là. Nous avions, le cégep était pas au monastère, mais
au
Juvénat Saint-Jean. Nous avions tout un étage là-dessus.
Puis ça, c'était accepté par le ministère de l'Éducation?
Non. D'ailleurs, j'ai toutes les lettres ici là, que le ministre François, comment il s'appelait, Cloutier, a envoyées au président des étudiants en disant « Votre année scolaire ne sera jamais reconnue et vous ne pouvez pas aller au cégep de Saint-Félicien, c'est un cégep illégal. » On a fait quand même deux sessions.
OK, quand même.
Puis la troisième session, il n'y avait plus d'argent.
Ouais.
Il n'y avait plus d'argent pour faire venir le cégep. Or, on nous a envoyé à le cégep de Saint-Félicien. Qui a reconnu mon année?
À Dolbeau.
Toute la première année a tout été reconnu et nous avons poursuivi nos études collégiales. Et je voulais revenir avec ça parce que tu sais qu'il a sorti cette semaine l'histoire du cégep de Saint-Félicien, qui a été écrit d'ailleurs par deux professeurs du cégep de Saint-Félicien. Et elle relate très exactement la naissance. Et il y avait un article qui paraissait dans le quotidien cette semaine dans lequel on disait que, oui, le cégep de Saint-Félicien est né dans la controverse et les fameuses guerres de clochers qui existaient dans le temps. Je voulais revenir là-dessus parce qu'aujourd'hui, on se dit, tu sais, la MRC de Barrière-Chapdelaine est la seule MRC où il n'y a pas d'institution post-secondaire. On aurait pu en avoir une. Ça n'a pas passé, ça n'a pas marché, mais... Puis je pense qu'aujourd'hui, on dit le cégep de Saint-Félicien, on a de la misère à avoir des étudiants, on ne commencera pas à en recréer un autre. Peut-être, sauf que ce qui a permis aussi au secteur de Saint-Félicien de connaître une certaine progression, OK, collectivement, c'est la présence d'un cégep. C'est qu'on le veuille ou non. Alors, nous ici, oui, on est resté de très bons travailleurs. On est encore des travailleurs qui sont dans les usines et que nous faisons marcher les usines comme on veut. Oui, on coupe malheureusement du bois, mais on est mal reconnu, mais on coupe quand même du bois. Mm-hmm. On est un job avec ça. Mais on a très peu de personnes qui pensent des choses, réfléchissent à des choses.
Mais moins dans la réflexion.
On en a moins, hein? Puis ça, mais moi, je m'indique que ça va. Je voulais revenir là-dessus.
Oui, c'est correct.
Parce que ça a été une bataille, ou même si j'en avais que 17 ans, ça a été une bataille que nous voulions mener pour le milieu. Et ça, là, ça m'a toujours... C'est pour ça que ça m'horripile de voir qu'aujourd'hui, on a créé un CIUS, puis on a enlevé tout ce qui se passait dans l'hôpital de Dolbeau. Ça m'horripile de voir ça, c'est parce que c'est des gains qu'on a eus à des moments donnés, puis pour des raisons.
Ça fait partie de où je veux aller, parce que c'est le grand paradoxe de Jules. Jules Simard est un journaliste. D'habitude, un journaliste, ça doit être un peu indépendant, neutre, mais toi, tu es un gars engagé.
J'aime l'engagement.
Tu es un gars qui a toujours été engagé, tu parles de ces combats-là. Puis, t'étais bien allé en politique, t'étais attaché politique à un moment donné?
J'ai été attaché politique pendant 4 ans, de 1998 à 2002.
Non, c'est ça.
J'ai été...
Mais ton engagement politique est d'avant ça. Tu t'es impliqué beaucoup au niveau du Parti québécois? Y a-tu d'autres engagements?
Non, pas du temps où j'étais journaliste. Où j'étais journaliste, j'ai été complètement en dehors. Je n'avais aucune attache. J'avais des opinions politiques, mais je n'avais aucune attache à aucun parti.
Okay.
À ce moment-là. Donc, ça me permettait d'avoir mes entrées partout.
Oui, bien, c'est l'idée quand t'es journaliste aussi. Là.
Et de ne pas être nécessairement étiqueté à la guerre d'arriver le péquiste. Là. Je me suis engagé au niveau plus politique, au niveau de l'organisation, lorsque j'ai pris ma retraite.
OK.
Pas avant.
Pas avant, OK. C'est
avant, donc... Je te dis pas que j'ai pas été membre de parti, là, parce qu'il était un bout où je ne faisais pas de journalisme. Là, oui, je me permettais peut-être d'acheter une carte de parti ou deux.
Ou trois.
J'avais même acheté deux.
Bon, mais c'était la mode dans ce temps-là, tu sais.
Ouais,
les gens voulaient bien se placer pour aller les cartes des
parties. Oui, c'est ça. Et, mais j'ai, oui, toujours eu le goût de m'impliquer avec une cause quelconque, et surtout des causes à caractère politique. Je suis peut-être trop, ça va paraître drôle de dire ça, mais trop sensible pour avoir des causes à caractère humain. Je pleurerais tout le temps, mais
ouais.
Non. Mais une cause à caractère politique, social, ça, par exemple, c'est quelque chose sur lequel, et quand j'y crois, parce que je pense que je suis un gars de principe à ce niveau-là,
moi, je pense que
et
oui.
j'embarque à ce moment-là, là-dessus. C'est ça.
Donc, ta carrière de dans les médias continue pendant quand même longtemps, là, avant que tu...
Jusqu'en 1984.
OK.
En 84, je quitte vraiment tout le monde.
Qu'est-ce qui t'écarte? T'es tanné ou t'as d'autres
oui, possibilités? Oui, je suis un peu blasé.
Ouais.
Un peu blasé parce que, tu sais, à un moment donné, tu viens que tu connais des choses. Tu ouais. sais des choses. Et quand tu interroges quelqu'un, et puis que le quelqu'un, ce qu'il te dit, n'est pas ce qui se passe.
Puis tu le sais que c'est pas vrai, toi.
Là. Exact. Mais toi, là, comme journaliste, tu te dois de
dire rapporter cette parole-là.
Ce que lui dit. Là, oui. j'étais tanné.
Ouais.
Parce que ça m'arrivait à quelques occasions, c'est pas de même. Non, pas de même, là, que ça s'est passé. Ce que j'ai su, moi, c'est telle affaire, puis tu me dis que c'est telle. Mais tu sais, tu peux pas nécessairement... Ton rôle de journaliste te permet peut-être, oui, de poser des questions pour confronter quelqu'un, mais quelqu'un qui sait bien répondre à des questions est capable aussi de te mettre en boîte par rapport aux questions
ben,
que
oui.
tu y poses. Alors, tu te passes pour un gros méchant, alors que... Et ça m'a un peu... j'étais un peu tanné. Alors, j'ai dit, j'arrête. Et à ce moment-là, avec mon frère, on s'était dit, avec un de mes frères, d'ailleurs, on a été trop dedans. Mais en tout cas, on se part en affaires. Mon frère était responsable, pas responsable, il travaillait au service d'ingénierie de l'hôpital de Chicoutimi. Lâche sa job, on se part en business. On fait une entreprise de balancement de systèmes de climatisation et de ventilation. Et voilà, nous achetons les produits. On voulait toujours essayer de se lancer en affaires, bon, puis tout ça. On part la business là-dessus. Ça a duré 6 mois.
Pour vrai?
Ah, OK. Ouais, ouais.
Ça n'a pas marché.
On n'a pas fait relever ça. On était 3 frères. On n'a pas été capable de la faire relever parce qu'on ne savait pas c'était quoi faire de la business. Tu vois, je te dis.
Ouais.
Tu sais, on partait de l'idée.
Tu étais naïf.
Oui, plus que naïf. Parce qu'on partait de l'idée que nous étions des petits culs et qu'on pouvait peut-être devenir un plus gros cul. Mais en étant en affaires, en se lançant en affaires. Bon, ça n'a pas de jour. Pour te lancer en affaires, là, ça te prend une étude de marché. Tu sais, je veux dire, il faut que tu saches un peu ce que... Nous, on n'a pas fait du tout le marché. Ah ouais, on part le business, on lâche nos jobs, puis pas de chômage, rien, bing-bang, on s'en va en business. Là, à un moment donné, il faut bien qu'il y ait du pain quelque part. Hein?
oui, clairement.
Avec tout logé. Et là, je suis revenu, moi... comme répartiteur chez la compagnie Alba, qui vendait de la brique. Et il y avait besoin d'un dispatch, comme on dit, là, d'un répartiteur, parce que la compagnie, dans ce temps-là, elle amenait le vent dans les voiles. Elle ne produisait pas assez pour répondre à la demande. Donc, ça leur prenait quelqu'un. Et au niveau de la répartition, pour répondre aux commandes qui nous étaient adressées par nos distributeurs, faire à croire à du monde. Hey, je te l'ai envoyé ta vanne de briques. Fait que ça lui prenait quelqu'un qui était un peu capable de parler.
Ouais.
Oui, et de compter des mandrés.
Non, ben c'est correct. C'est pour ça que.
Et alors mais je blague en disant ça, mais il y avait effectivement besoin d'un problème pour pouvoir gérer davantage les commandes puis par rapport à la capacité de production. Et ça m'entend.
Mais c'est loin de ce qui t'allumait dans la vie, là.
Oui.
T'as-tu fait ça longtemps?
J'ai fait ça 2-3 ans.
Oh, c'est plus que ton entreprise. Puis là, à un moment donné, c'est quoi? T'es tanné de faire ça?
Là, on est en 1988.
Ouais.
Et nous décidons de repartir un autre business. Cette fois-ci...
Ta revue.
En faisant une revue à caractère économique qui s'appelait L'Investisseur Saguenay-Lac-Saint-Jean. Et là, on avait toute la région. On couvrait toute la région, on voulait couvrir toute la région avec ça. C'était une revue, c'était un mensuel, de surcroît. Et on se disait, avec ça, on va créer un engouement pour s'adresser aux hommes et femmes d'affaires de la région et aux gens qui ont un intérêt à savoir qu'est-ce qui se passe au niveau économique dans la région.
Puis, est-ce qu'il y avait un intérêt?
Moi, j'avais complètement oublié. Parce que je ne le savais pas. Mais les hommes et femmes d'affaires étaient tous de très bons travailleurs. Ils étaient tous en arrière de la boîte. C'est eux autres qui montaient, qui répondaient aux commandes. Les commandes, tu sais, ils faisaient venir ça par une firme de comptable, une firme de marketing. Mm-hmm. Qui faisait. Donc, mon public, c'est, il n'était pas le bon. Lui, il ne lisait pas le journal. Il ne lisait même pas le journal, mon homme et ma femme d'affaires.
Fait que c'était un autre échec.
Oui, ça a été... oui, et là, ça a beaucoup de choix. Ouais. Parce qu'on a publié deux numéros, j'ai encore tous les numéros, une bonne partie. J'en ai pratiquement pas vendu. Quelques éléments de publicité, mais pas beaucoup. Et ça a fait mal, ça, ouais. Économiquement.
OK. Puis là, comment tu te retrouves là-dedans? Là? Tu te retrouves, là, ça marche pas, faut que j'abandonne ce projet-là. Qu'est-ce que je vais faire de ma vie? 89, on est en
89? 89, à peu près. En 88... 89, je reviens un peu dans le secteur du journalisme.
OK.
Et surtout, en étant toujours correspondant.
OK.
Pour le quotidien. Bien, je deviens conseiller en main-d'œuvre à CEMO Saguenay-Lac-Saint-Jean. J'aide au placement de personnes ayant une déficience physique ou intellectuelle.
Mon Dieu, t'en as fait des choses.
Et j'ai fait ça pendant 9 ans.
Quand même.
Jusqu'en 1990.
Puis tu continuais tout le temps de faire un peu de correspondance en
même
temps?
J'en ai fait un peu, mais à un moment donné, tu as arrêté. J'ai complètement arrêté de faire de la correspondance à ce moment-là. Alors, j'ai donc été conseiller en main-d'œuvre, comme on disait, pendant toute cette période.
Et là, on t'a approché, fin des années 90, pour devenir attaché politique.
Oui. En fait, ce qui est arrivé, c'est que en 1998, donc... j'enseignais aussi à l'école de routier de Charlebourg, où je montrais à comment montrer, comment enseigner.
Oh, des cours de pédagogie.
Quasiment. En fait, c'était enseigner en milieu de travail, c'est-à-dire quelqu'un qui devait montrer à quelqu'un d'autre, donc donner des trucs. De comment...
De communication.
En communication. Parce qu'au cégep de Saint-Félicien, j'avais donné quelques cours en sciences politiques et en sociologie à MSTUH. Okay. J'ai fait ça pendant 2 ou 3 sessions. Où je donnais donc des cours...
Tu restais ça, toujours allumé là, par tout le milieu politique,
toutes ces choses-là. La communication, ça a été toujours mon leitmotiv.
Là, quand on va te chercher comme attaché politique, est-ce que c'est avant ou après les élections?
C'est pendant. Ça veut dire que les élections avaient eu lieu. C'est en 1998 que je suis entré en politique, juste avant le déclenchement
pour
M. Benoît Laprise, ouais. Où là, j'ai été donc jusqu'en 2002 attaché politique à ce moment-là, donc pendant 4 ans.
Et quand ils perdent le pouvoir en 2002?
J'étais parti. Je venais de partir. Je suis en allé. Oui et non. En fait, ce qui est arrivé, c'est que je savais que M. Laprise avait annoncé qu'il ne se représenterait pas.
Okay.
Il nous l'avait dit. Il se représente. Donc, je me suis dit, OK, je me cherche quelque chose ailleurs. Et à ce moment-là, la Chambre de commerce de Normandin se cherche quelqu'un pour être... coordonnateur ou enfin directeur à Lambeau. Or, j'applique sur le poste et on me le donne.
Et de là va déboucher le projet des Grands Jardins.
Ils sont. Après
parce que là,
deux
c'est toi l'instigateur de ce
après
projet.
Après 2 ans, donc, à la Chambre de commerce, là, a essayé de travailler pour dynamiser aussi le secteur économique à ce niveau-là. Là, les Grands Jardins, il n'y a plus de directeur général. Or, On m'approche. T'as-tu un intérêt? Oui, j'ai un intérêt à essayer ça. Je l'ai fait pendant 2 ans de temps, où on a essayé de relancer, parce qu'on n'avait pas d'argent.
Ouais.
Il n'y avait pas d'argent.
C'est le nerf de la guerre.
Tu sais, je veux dire, c'est 25 personnes qui ont embauché à chaque année.
Ouais. Faut que tu les payes.
Puis,
faut que tu en plantes des
fleurs.
En plus,
je n'avais pas l'argent de faire de la promotion. Ouais. Donc, il fallait qu'on essaye d'être, de maintenir à flot. On n'a pas été nécessairement capable parce que l'année d'après, quand moi je suis parti,
c'est mort.
C'est mort. Ça l'a arrêté temporairement, ça ne l'a jamais repris dans le sens des grands jardins.
Ouais, comme
c'était quand même. C'est parce que c'était.
Tu gardes l'amertume de ce projet-là?
Non.
Non?
Non, parce que c'était intéressant. C'était intéressant comme projet. De faire en sorte qu'un milieu agricole fasse valoir un élément à caractère. Moi, c'était ça qui était mon leitmotiv. C'était pas le fait d'avoir des jardins d'Orient, des jardins d'Anglais, puis des ci, puis des ça. C'était. Puis, moi, je m'étais dit, ça peut devenir un gros terrain de jeu aussi.
Absolument.
Et une des idées que je m'étais mis, il faudrait peut-être qu'on essaye de mettre de l'avant, c'était de faire dans le temps. La plus grande patinoire à ciel ouvert dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Avec tous les chantiers qu'il y avait au Grand Jardin. Moi, je t'aurais glacé ça pendant l'hiver. Au complet, les sentiers. Ça aurait fait une très belle patinoire. Tu aurais pu patiner pendant 2,5 km de temps sans jamais voir le même paysage. Et tu aurais vendu du café après. Tu sais, je veux dire, je suis sûr qu'on aurait fait de l'argent avec ça. On aurait sauvé. Mais bon, j'ai pas eu le temps de faire. Sais-tu qu'est-ce qu'ils font l'hiver à Grand-Vin?
Patinoire.
Et des patinoires, et des glissades, et des scies, puis tout le monde trouve ça bien, bien correct. Mais moi, dans le temps, j'ai pas eu le temps de mettre de l'avant.
T'étais trop en avance.
Peut-être.
T'es un visionnaire.
Mais peut-être, mais c'était une façon aussi de redonner à la population ce site-là. Hein, de lui redonner parce qu'il a investi beaucoup.
Ben oui.
La population a investi beaucoup. Écoute, il me donnait 75 000 piastres par année dans le temps à la municipalité de Dormanin faire marcher ça.
L'argent,
ça t'a coûté 75 000 pour avoir des fleurs, mais c'est pas grave. Au moins, les fleurs étaient payées. Il restait à payer personne.
Puis quand tu pars de là, bon, ça n'a pas marché comme tu voulais. Là, tu décides de retourner au journaliste. C'est là
oui.
que tu t'en vas au Nouvel
Hebdo.
En fait,
en 2006, je reviens au Nouvel Hebdo. J'ai 53 ans. Puis c'est drôle, ça m'intéressait. Là, de revenir.
De revenir,
de faire du journaliste. Et,
puis tu as peut-être plus la maturité aussi, là, pour faire des éditions, parce que tu étais éditorialiste aussi.
Oui,
là.
Oui. Et il y avait aussi l'élément de dire j'avais maintenant une vision de ce que c'était faire du journalisme.
Oui, tu avais une bonne connaissance du terrain,
des municipalités.
C'est
ça, je me disais, ça serait plaisant de le faire comme ça. J'ai eu le même réflexe quand Andréane m'avait offert de faire l'émission à la télévision locale.
Nouvelle du Lac.
J'avais comme une idée de dire, on pourrait peut-être essayer quelque chose de présenter comme ça aussi, l'information. Et le fait de parler des gens, raconter ce qui se passait, et de faire en sorte que ça puisse être un point où les gens se disent « Hey, gars, chaque semaine, je regarde, puis je vois ce qui se passe, ou je lis ce qui se passe. » Alors, c'était l'idée.
C'est la pédagogie aussi qui t'intéresse
d'expliquer. Oui, il y avait un élément, et ça, je l'ai joué, le rôle éditorial, en plus. Tu sais, c'était pas juste une opinion.
Ouais.
C'était une analyse que j'essayais de faire le plus possible avec l'éditeur et d'amener des éléments d'information quand même, mais plus global sur le fonctionnement de la société. Je te dis pas que je réussissais à tout coup, là. Je veux dire, t'en publies quand même 52 éditoriales d'une année, là.
Ouais, ouais.
Tu sais, je veux dire, tu peux pas toujours avoir la bonne cause. Mais il y en avait quelques-uns sur lesquels... je me trouvais correct.
Oh oui.
de pouvoir
non, puis est-ce que c'est difficile d'être éditorialiste d'un petit milieu où tout le monde se connaît parce que tu peux pas froisser tout le monde.
Non.
Tu veux dire des vérités, mais tu sais que le rebound va arriver, là, un peu comme, comme ton affaire de
ah, oui, oui, quand je... exact, exact, ouais. Exact. Tu as été dans un milieu assez fermé. Faut-tu faire attention au choix de tes mots. Je n'ai pas eu de... je peux pas dire que j'ai eu de mauvaises critiques au niveau du rôle éditeur. Je te dis
t'as-tu eu des pressions, des fois?
Non.
Non.
Non. Ça, à ce niveau-là, le monde le savait. Premièrement, il savait où je crêchais.
Ouais.
Hein? Déjà au départ.
Ben, t'étais impliqué déjà au Parti québécois.
Ben, je m'étais déjà impliqué comme attaqué
ben, oui.
Politique.
Ben oui, exactement. Hein? Fait que, veux pas
t'étais... Le monde savait un peu ce que je crêchais. Mais ça n'a jamais, d'ailleurs, transpercé, non?
Non.
Que ce soit avec les libéraux, les conservateurs ou quoi que ce soit, j'avais quand même...
Tes entrées.
Je pense que j'ai... Oui, et j'avais une forme de respect que les gens respectaient aussi.
Ben, moi,
ça, je le sentais.
Oui, puis c'est je vrai que t'as ça. Moi, je travaille avec toi régulièrement pour analyser l'actualité, puis on n'est souvent pas d'accord, mais c'est toujours dans le respect. Là,
oui, c'est ça. Et ça, je pense que... puis encore aujourd'hui, là, je veux dire, je le regarde, là... et ça m'a permis de faire mon travail le mieux possible. Mais il n'y a rien de plus agréable que de parler de quelqu'un qui vient de faire une réussite ou qui...
Ouais.
Tu sais,
ça positif.
Il y a eu
aussi,
des textes où j'ai... Il y a un texte que je n'ai jamais été capable d'écrire.
OK.
J'ai assisté à l'événement. C'était quelqu'un qui racontait son voyage avec son épouse qui avait souffert d'Alzheimer.
Oh.
Il nous l'a tout raconté. J'ai les notes. Je pense que j'ai conservé mon cahier de notes. Je n'ai jamais été capable d'écrire le texte. Alors, je braillais en mettant mes deux mains sur le clavier.
Ouais.
Je n'ai pas été capable de rendre, parce que c'est ça qui est important pour le journaliste,
oui,
c'était de rendre cette histoire-là plus que vraisemblable parce que et de la rendre correctement. J'ai pas été capable d'écrire. Un autre texte où j'ai eu de la difficulté, mais que j'ai quand même écrit, c'est le jeune qui a... j'essaie de me rappeler de son nom. J'ai toujours eu des problèmes avec les noms, pas ça. Tu sais, celui qui a eu un accident en faisant du trapèze.
Oui.
OK. Lui, j'ai fait son entrevue, j'ai fait une entrevue avec lui. Ça a été excessivement difficile.
Ouais.
À écrire.
Ben oui.
Et ça a été un de ceux à qui j'ai montré mon texte avant de le publier.
OK.
Parce que c'était plein d'émotions, là, là-dedans. Et trop.
C'est
et trop.
Sûr, ouais, t'es
et pour j'ai de la difficulté avec ça parce que j'embarque. Trop. Tu sais, je suis pas capable de le regarder trop froidement. Et ça, là, j'ai eu énormément de difficultés à écrire. Là. Je l'ai écrit. Je pense que ça m'a pris 2 jours pour écrire un petit texte de roman, là. Il faut que tu t'y mettes, non?
Mm-hmm.
Mais je l'ai quand même écrit. Bon, je pense qu'il a été satisfait, lui aussi, de la façon dont je l'ai traité. Mais tu sais, quelqu'un qui te dit, tu sais, je serais bien mieux mort que vivant. Tabarouette, comment tu essaies de rendre ça, là? Tu comprends? Oui. Puis tu sais, le jeune est devant toi, là. T'sais.
Oh, oui, c'est ça. Ça te rentre dedans?
Oui, ça rentre dedans. Mais ça, c'est des expériences. Bien, j'en ai une autre expérience que j'ai très, très mal été, ça, où j'ai mal vécu pendant une journée de temps. Tu sais, la jeune qui a eu un accident, elle était chanteuse. Voyons, la fille à Asselin, la petite Asselin, la sœur de... Ah! En tout cas, je l'ai baptisée Valérie tout le long de mon texte et je devais dire Valérie à peu près à toutes les deux phrases que je disais. Mais elle ne s'appelait pas. Elle s'appelait Véronique. Mais moi, je l'ai baptisée Valérie tout le long. Et là, j'arrive chez nous puis je dis à mon épouse, « Ah, j'ai fini ma semaine. Là, tous mes textes sont envoyés, y compris celui-là sur Valérie. » Maman m'a dit, ben, « c'est pas Valérie, c'est Véronique. » Qu'est-ce que tu viens de dire là? Moi, le journal était parti pour Chicoutimi faire imprimer, là. Il était parti, là. La fille à l'infographie, elle l'a envoyé, là, elle. Et là, je m'en vais au bureau, puis je dis à l'infographie, je dis, « Hey, le texte est-tu parti? » Elle dit, « Oui. » Elle dit, « Ils sont justement en train de le mettre, là. »« Hey, j'ai dit, faut qu'ils me changent toutes les Valérie pour Véronique. » J'ai dit au complet, faut tout qu'ils changent.
Ils n'ont pas dû t'aimer ce journal-là?
J'ai pas dormi. Non, ça, parce que moi, quand j'arrivais, je rédigeais quasiment la nuit, hein, peut-être vendredi dans le temps. Puis là, je rédigeais à 3 heures du matin, j'étais sur ma tête. C'était dans l'ordre des textes que j'avais écrits. J'ai pas dormi cette journée-là, pas toute. Puis là, j'étais là, puis ils vont-tu le faire? Ils vont-tu le faire? À 5 heures de l'après-midi, il y avait quelqu'un qui allait archer le journal. Ben, c'est faisait imprimer, ouais. Là. Là, il revenait ici. La première affaire que je dis, j'ai dit à la personne qui est allée, j'ai dit, tu vas regarder. Puis c'était mon front page. J'ai dit, tu vas regarder sur le front page. Puis il me dit, c'est quoi le nom de la personne?
Wow, wow.
Ben, ça a été correct.
C'était correct.
Ça a été, il avait fait mes corrections.
Bravo.
Mais ça, là, tu sais, c'est pour te dire que j'aime. J'aime les gens que je.
Ouais, puis même avec l'expérience, tu sais. C'est ça, t'as l'erreur, les affaires, on est tellement dedans.
Surtout qu'avec les longs, j'ai tout ri de la duche.
Puis ça t'amène que t'as pris ta retraite il y a quelques années.
Oui.
Bon, tu continues à travailler un peu. Entre autres, là, tu fais un peu l'éditorialiste à la télé communautaire avec moi où on va analyser l'actualité. Je pense que tu contribues aussi avec ton expérience à ça. Puis ta compréhension du milieu, parce que toutes ces années-là, à faire plusieurs travails, aller en politique, en journaliste, t'as un réseau, t'as une compréhension du milieu qui dépasse là, celle de beaucoup de personnes.
Oui, ça nous permet de voir, effectivement, d'aimer aussi.
Ça te reste, ça fait garder actif aussi au niveau de, niveau de la politique
ou
de la nouvelle.
Oui, tu le maintiens. J'aimais ça, j'aime ça encore faire « Qu'en pensez-vous?
Ouais. »
Je pense que je suis pas mal dans les premiers qui l'ont parti. Après... le départ du l'ex-maire de Delbois, Henri-Paul Brassard, de Gilles, pas Gilles Lamontagne, mais
Gilles Brassard.
Gilles Brassard et Mme Murad qui faisaient l'émission avec M. Ménard. Quand ils ont arrêté, là, moi, j'ai commencé. M. Ménard m'avait approché, veux-tu faire l'émission? Dans le temps, c'était. On était juste deux personnes,
comment on le fait?
Je jouais, ça m'intéresse. J'ai pas arrêté.
On est encore là.
J'ai quasiment pas arrêté. Oui, j'ai arrêté. Quand j'ai pris ma retraite, là, j'ai arrêté 4 ou 5 mois. Parce que quand j'ai pris ma retraite, t'as le temps.
Mais un gars qui a été actif comme toute sa vie, là, le mot retraite, ça veut un peu rien dire. C'est plus. Je vais changer de vie encore, je vais avoir d'autres projets, ou tu as le goût d'arrêter puis de te poser?
Non, ça, on peut pas. On peut pas. Assez que je m'étais dit à l'élection d'ici, j'avais fait 3 élections où j'aurais aimé me présenter au municipal et au provincial. Les 2 premières, c'est le médecin qui m'a empêché d'y aller. Il dit, moi, ça me va rien, mais il dit, si tu y vas, tu vas te ramasser de même. Oh, qu'est-ce que d'abord, moi, t'écouter. Il y a celle-ci où j'aurais peut-être aimé essayer d'y aller. Et c'est là que je me suis rendu compte que j'étais maintenant rendu jaloux du temps qui m'appartient.
Ouais.
À la retraite, c'est l'élément.
Tu sais, toi, t'es grand-père aussi maintenant. Là. Ça,
ouais.
ça change la donne dans une vie. Là.
Ça, c'est...
Ça fait combien de temps que t'es avec ton épouse?
Hey, ça va faire une couple d'années, 86. 86, ça fait 14 plus 21, 35 ans.
Golly.
35 ans. On s'était connus 9 ans avant.
OK.
Puis ça n'avait pas marché. Puis après ça, après 9 ans, ben, à un moment donné, je l'ai appelé. Je lui ai dit, tu sais que tu fais de bien. Donc, bing bang, on dit correct, on fait ça.
Parce que ça change aussi ton rapport. Fait que là, tu vas rester spectateur un peu de la scène politique.
Oui. Et ce que j'aime dans l'émission qu'on fait tous les deux, c'est un peu ça.
Ben oui,
c'est que ça nous permet
on est privilégié
de ne
faire
pas
ça.
Décrocher hein, ouais. de ce qui se passe dans ton milieu, d'être à l'écoute aussi encore, quand même, toujours. C'est sûr que tu n'as pas les mêmes types d'entrées qu'avec quand j'étais journaliste.
Ben oui, là, c'est normal.
Tes sources d'informations, comme on dit, ne sont plus les mêmes. Là. Mais là, je me fie aux confrères.
Ouais. Ben oui, parce que les gens changent hein, dans les postes. Les gens que tu connaissais qui étaient dans certains postes aussi,
ils sont soit partis ou encore... Et ça nous permet de voir là, des choses un peu différemment aussi. Tu sais, on se sent moins impliqué dans le quotidien de la chose.
Ben oui.
Donc, ça nous permet de le regarder de façon un peu plus externe et de se dire, en fait, je devrais peut-être dire que dans nos discussions, il y a peut-être un élément qui se ressort beaucoup, c'est que peu importe le type de la décision qui se prend en public, elle a toujours un effet positif. On a toujours pas trop tendance à regarder, parce que c'est plus facile de regarder les éléments négatifs.
Ça fonctionne pas, ça. Ça, ouais.
OK? Mais quand tu analyses ça, peu importe le type de décision qui se prend, il y a un élément positif. Et des fois, travailler à essayer de le faire ressortir et de le faire insister, au lieu de faire insister, ben non, on marche pas. Regarde, aujourd'hui, on parlait du plan de Legault puis du ministre de la Santé, puis c'est ça. Oui. Tout le monde dit, bien, on espère que ça va marcher. Non, c'est qu'est-ce qui peut faire en sorte qu'il va marcher?
Oui, c'est ça.
Qu'est-ce qui va faire en sorte? Et si tu écoutes ce que les commentaires des personnes, tu te dis, bien, il y a peut-être ça, effectivement. Ça peut peut-être bien fonctionner pour ça. Si tu fais ressortir ça, ça va être quoi, nouvelle? Eh oui, il va réussir.
Oui.
Okay? Mais on a-tu raison de dire ça ou on n'a pas raison de dire ça? Ça restera tout. Tu sais, c'est un métier qui est sujet à la critique, le métier de communicateur.
Et, oui, parce qu'il y a toujours un angle. Même si on est supposé d'être neutre, la neutralité, elle n'existe pas.
Exact.
Là.
Et tout comme l'objectivité n'existe
pas. Non, c'est ça.
En fait, en sciences sociales.
Oui.
Parce que ça dépend du principe avec lequel tu pars. Tu peux avoir une forme d'objectivité si tu fais une science pure. Tu sais, puis encore.
On a nos postulats, on a nos erreurs de socialisation, on a été élevé d'une manière, on fonctionne, ça, c'est plus compliqué.
Exactement.
Ah, c'était très enrichissant, Jules.
Ah!
Non, mais pour vrai, parce que t'as une carrière multifonctionnelle, t'as fait plein de choses, mais il a toujours resté un peu le lien dans tout ça, c'est l'information, c'est la nouvelle, c'est le quotidien, l'actualité. Merci, parce que t'es un peu un mentor aussi pour moi, tu m'as appris beaucoup, puis on partage énormément là-dedans. Puis merci. Puis merci de m'avoir donné ton temps aujourd'hui pour nous parler de cette belle carrière que tu as eue, en espérant qu'il y ait encore plein de beaux projets dans ta vie.
Hey, ça nous en prend. Et les plus beaux, ils sont encore, ils ont actuellement 2 et 3 ans. Et il y en a un qui s'en vient bientôt, donc je vais avoir 0 ans à commencer avec l'autre.
Bon, ben bonne carrière de grand-papa.
Au plaisir.
Merci.
C'est un petit dégât qui m'a donné ma prothèse de vélo.